Chers auditeurs des Lutins de l'Enfer, si vous écoutez Spotify sans l'abonnement premium, vous aurez seulement un extrait de 30 secondes pour les chansons discutées. Mais n'ayez crainte, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission!
Hey, cette semaine, au Lutin de l'Enfer, il va y avoir ben du métal pour vous autres, comme à l'habitude! Le Lutin O va nous parler de son boys crush, puis moi, je vais vous parler du film Démon 2, au Lutin de l'Enfer!
Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer.
Ça, ça rentre.
Ouais. Comme on aime.
Bienvenue au Lutin de l'Enfer 2.0.
Oui, 2.0, en effet.
Pour ceux qui se connaissent, qui nous connaissent pas, on va faire un petit tour de table rapide. Je suis le Lutin D. Je viens de... C'est fou, on a fait une émission de radio pendant plusieurs années là-bas. Ça fait longtemps qu'on a arrêté. J'étais accompagné de...
Lutin K, moi-même, en effet. T'avais commencé à faire de la radio un an avant de m'inviter pour un projet commun de faire du métal. Et on est parti le lutin dans l'enfer, même si autrefois, ça avait eu un autre nom.
Oui, c'est vrai. On avait commencé à sur AM Détente.
Un nom qui fit.
Puis on avait souvent un invité avec nous, le lutin Garou autrefois, qui résidait dans la grande ville de Montréal.
Voilà, des fois, je faisais le voyage à Trois-Rivières pour aller vous rejoindre. C'est ça, on disait... Je disais le lutin Garou parce que... Souvent, quand je faisais ça, j'étais habillé tout propre pour mon travail de jour, puis j'arrachais ma chemise dans l'auto sur la 40 en me rendant à Trois-Rivières pour devenir un lutin temporaire.
Ouais. Ça fait 10 ans qu'on a arrêté l'émission environ. 10 ans, on a fait pendant 9 ans de temps, moi puis le lutin D. C'est parce qu'on était retenu en otage au Pôle Nord, ceux qui le savent, les lutins doivent travailler dans le temps des fêtes pour faire des cadeaux pour le Père Noël. Et là, malheureusement, on s'est insurgé, on était un peu tanné de travaux forcés, et voilà ce qui arrive, 10 ans de détention.
Enfin sorti. Ça fait du bien. On sort, puis on n'a plus le droit de sortir. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais.
Ouais, puis c'est ça, dans le fond, je pensais... J'essayais de trouver un podcast qui parle de métal parce que je me suis mis à beaucoup apprécier les podcasts, j'en écoute pas mal. Puis j'en cherchais un sur une de mes passions, le métal, puis... C'est sûr qu'il en existe, là. On va sûrement recevoir des messages de « Hey, écoute tel podcast », mais j'en ai pas trouvé. Puis surtout maintenant qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de mettre de la musique dans le podcast tout en étant parfaitement légal via Spotify, alors c'est génial.
C'est un peu toi, ça, dans le fond. Le lutin haut qui nous a poussé dans le cul à revenir et dit « Allez, les amis, faisons de quoi, ça existe pas, on va le créer tant qu'à ça ».
Je voulais réentendre les lutins. Et puis... J'ai une question pour vous, les lutins. Vous en avez fait quand même longtemps de la radio, pendant 10 ans, vous avez dit. Puis ça fait 10 ans que vous en faites plus. Comment qualifieriez-vous la scène métal aujourd'hui?
C'est peut-être parce que j'ai quand même décroché d'une certaine mesure. J'ai l'impression qu'elle est... on n'est plus aussi forte qu'elle a été. Dans le fond, dans le milieu des années 2000 jusqu'à environ peut-être 2012, il me semble que la scène métal au Québec était... très présente, mais c'est peut-être justement parce que moi, je me suis tassé un peu plus du domaine pour aller vers Marc Dupré et autres. Non, c'est pas vrai. Mais que je suis moins au courant là, de la scène, mais la scène internationale tient bien, puis tu sais, je trouve qu'il y a encore beaucoup de nouveaux bands fort intéressants, puis ceux qui disent de la bonne musique, c'est non, juste dans les vieilles années, puis tout, non, regarde, ils font encore du bon stock aujourd'hui. C'est sûr que de la merde, il y en a beaucoup, mais ça, il y en a toujours eu dans les années, hein, dans toutes les années.
Mm. Mais en fait, je pense qu'une grosse différence aussi qu'il y a, mettons, aujourd'hui, que vous l'avez 10 ans, encore à l'époque, on était sur la fin des gros réseaux mainstream, si vous voulez, tandis qu'Astor, c'est tellement dilué qu'il peut avoir quelque chose d'extrêmement populaire, puis il n'y a juste personne qui est au courant, parce que c'est niché, puis il y a de moins en moins de monde qui écoute, fait qu'il suffit juste de voir que, tant que les shows marchent, je me dis la scène marche.
Là. Ouais. Puis il y avait une étude qui avait été faite d'ailleurs, que supposément que l'humain en général, passé un certain âge, n'est plus porté à écouter de nouvelles musiques, il aime mieux réécouter du stock qu'il connaît déjà. Tu sais, c'est, il connaît pas ça, c'est que ça, automatiquement, ça lui fait peur. L'humain est bâti comme ça. Quand on connaît pas, ça fait peur. Donc, peut-être que moi, Lutin D, aussi, je sais, dans les exceptions, qu'écoute encore beaucoup de musique et cherche encore du nouveau stock. Ne fais pas juste aller écouter mon vieux stock de 96, là, ou... et autres.
Moi, j'écoute plus de vieux stock que de nouveautés, mais je trouve que l'émission, justement, ça va me donner un coup de pied dans le cul pour à repartir à l'écouter. Je suis bien, moi, dans mes pantoufles.
Le lutin haut, tu sais, t'écoutes du Metallica, toi, je sais.
Ben, j'en écoute un peu, mais j'aime bien aussi. Justement, je vais voir sur les sites les nouveautés qui sortent, puis j'essaie de. Puis souvent, même, je vais y aller avec un filtre. Tu sais, j'extrais la liste des nouveautés, puis tout ce qui a des bonnes cotes, j'essaie d'écouter, même si je connais pas du tout. Fait que souvent, bon, comme tu dis, il y a beaucoup de déceptions, mais souvent, quand même, il y a des belles petites trouvailles, là, puis des groupes très intéressants. Hein. Je trouve qu'il y en a. On dirait que maintenant, avec la façon que c'est fait, c'est plus démocratisé. T'sais. On dirait que n'importe quelle band, t'as plus besoin d'être signé par Nuclear Blast pour percer. Donc, il y a ça qui est intéressant.
Ben, Lutin D m'a fait découvrir ces derniers temps, ben, il y a un certain moment, le band Odco, qui est un groupe italien, on pourrait dire industriel un peu, je pense, D.
Oui.
Puis, c'est ça, c'est un groupe italien. Puis, quand tu regardes le visuel, puis comment que ça sonne. Tu te dis, ouais, il y a 10-12 ans, tu sais, ce genre de band-là n'aurait jamais existé. Pas ce côté technologie, mais tu sais. C'est ça. C'était moins grand public là, avant la démocratisation qu'on connaît aujourd'hui. Là.
Donc, est-ce qu'on y va avec le tout premier bloc du podcast des Lutins de l'Enfer? Vas-y, Lutin D.
C'est moi qui rouvre ça. J'ai décidé d'y aller avec, premièrement, de quoi de vieux? Que j'aime beaucoup, Baron Earth, une pièce The Rain Begins tirée de leur deuxième album de Devil Resolve. Je trouve ça super bon, moi, ce disque-là, puis je me suis fait ghoster pour cette tune-là, fait qu'à vous d'en juger. Puis sinon, on va débuter avec un band que je connaissais pas, de Black Crown Initiate. J'ai décidé de prendre la pièce Years in Frigid Light de l'album Violet Portraits of Doom Existence, qui est sorti, dans le fond, en 2020. J'ai vraiment aimé cet album-là. Je trouve que l'harmonie vocale est super bonne. La progression aussi, je pense que c'est un album solide.
Ça fait partie des albums que j'avais découvert en faisant un screen avec les bonnes cotes. Il y avait eu des bonnes reviews, puis effectivement, un super bon mix prog-death un peu. Là. Très bien réussi.
Ouais, je vais probablement revenir un peu dans leur discographie aussi, voir qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Fait qu'on va écouter ça. On vient d'entendre une toune de Devin Townsend tirée de son album Empath, sorti en 2019, la toune Hear Me. Je vous suggère d'aller voir le channel YouTube de 6X Samus qui drum cette toune-là sur l'album. Il a fait une vidéo où est-ce qu'il drum l'album, quand même impressionnant à voir. Allez.
Ben, quelqu'un qui a de la misère à figurer du drum dans le métal, je trouve que c'est un bon moyen d'y montrer. Et voilà, c'est le même, ça marche.
Ben, c'est le même, ça marche. Fait que tu seras pas capable, abandonne tout de suite.
Essaye même pas.
Devin Townsend, c'est le dernier show que j'ai vu avant le confinement, que j'ai vu avec le Lutin O.
Ouais, au théâtre Corona, comble de l'ironie.
Ouais, hein? Puis ça a été un super de bon show. Moi, j'avais vraiment, vraiment apprécié. Puis dans le fond, un peu avant les fêtes, Devin Townsend a sorti un nouveau DVD qui est dans le fond la tournée de Empath. Puis le DVD est vraiment super bon, super bien filmé. Un set très, très différent de ce qu'on a vu à Montréal. Il va se concentrer plus sur des tunes plus récentes. Puis plus sur le dernier album. J'ai acheté la version Blu-ray avec un livre de photos super beau. J'ai mis des photos sur notre Instagram des Lutins de l'Enfer. Super beau coffret. J'aime ça ramasser encore des trucs physiques aujourd'hui, mais on s'entend que la musique physique, c'est voué à disparaître pour des raisons, en fait, un peu pratiques, je pense.
Ben oui, parce que c'est moins de troubles déménager son disque dur ou Spotify qu'à déménager une collection de 2000 CD.
Ouais, ben, c'est... Mais tu sais, on s'entend que moi, quand j'ai commencé à acheter de la musique, j'achetais de la musique parce que c'était la façon de faire pour pouvoir l'écouter.
Non, t'étais obligé parce que c'était Maison Columbia.
Entre autres. Entre autres. Mais tu sais, il y a bien des disques, il y a bien des tunes que si tu voulais avoir, t'avais pas le choix d'acheter ce disque-là. Aujourd'hui, on s'entend que le physique en musique, c'est plus vraiment nécessaire. Fait que le monde trippe à acheter des vinyles et puis à faire des belles collections. Fait que c'est Devin Townsend, c'en est un que je collectionne et que j'essaie de ramasser à peu près tout ce qui sort dans des belles versions.
Ben, mais... tu sais, le CD n'est pas encore tout à fait mort. On s'entend qu'il n'emmène vraiment pas large, le CD. Mais tu sais, des dernières années, quand ils sortaient des fois, souvent des albums, ils mettaient toujours un petit bonus, mettons, avec, tu sais, ou que ça soit des vidéoclips ou un CD live qui vient avec.
T'sais, le désavantage de ça, tu sais, mettons, on allait au disque Ruban, puis notre critère pour découvrir un band, c'était la pochette est-tu belle? C'était un investissement de 30 piastres des fois pour une importation, là, c'était fouraine.
T'es beaucoup de CD par pur hasard, mais j'ai découvert des perles de même, Blessed and Child, Stormlord, des groupes que je suis content d'avoir acheté Nowhere.
Puis avec les années, ben t'accumules, puis à un moment donné, tu te rends compte, tu fais « Wow, j'ai 30 albums du même groupe, qu'est-ce qui se passe?
» Ouais, puis des fois, t'as le même album en plusieurs exemplaires, hein, faut dire.
Oui, dans mon cas, quelques-uns. Si ça vous intéresse, je pourrais, vu qu'on peut pas se voir et tout, je pourrais mettre un petit vidéo de la collection de Devin sur notre YouTube des lutins. Je mettrai le lien sur le Facebook et tout.
OK. Bon.
Ça commence à être beau. Il m'en manque juste deux.
Bon, hey, je vais vous parler d'un groupe, moi, que j'ai découvert plusieurs années, en fond, avec leur tout premier album en 2012, le groupe Eskimo Callboy, un groupe d'Allemagne, comme je disais, qui donne dans... Bon, c'est de l'industrial core, là, je pense, mais moi, j'appelle ça du party core, du joyeux core, parce que c'est de la musique de party, sérieux, là, les gars se prennent pas au sérieux. C'est catchy, c'est vulgaire, veux dire, ils ont rien d'intéressant à dire, en gros, et c'est le pire duo de chanteurs, un dans les pires duos de chanteurs qui m'ont été donné d'entendre dans ma vie. Les deux n'ont pas de talent sur le premier album, puis ça fait le charme. Un vrai album d'adolescent enragé. Puis le groupe a progressé au travers de ça. Ça, il va vous présenter trois tunes. Il va vous présenter la chanson avec laquelle je les ai connus, qui est Is Anyone Up de l'album Burmin Vegas en 2012. Puis après ça, comment ils vont évoluer? On va aller en 2017 avec un single, l'album The Scene, qui est vraiment une très bonne chanson avec un chanteur invité que je connais pas du tout parce que je connais pas les rappeurs allemands. Donc, c'est ça. Donc, on va aller écouter Eskimo Callboy. Et c'était encore Eskimo Callboy avec la chanson Aipa Aipa, une autre chanson qui se prend pas au sérieux. Vous irez regarder le vidéoclip. Il y a un changement de line-up dans le groupe. Il y avait deux chanteurs. Vous avez, comme je disais, le pire duo de chanteurs au monde. Ils se sont améliorés avec les années quand même. Là. On va leur donner ça. Il y avait un qui s'appelle, celui qui scream souvent plus grave, qui va faire le pig squeal, il s'appelle Kevin. Puis l'autre, c'est Sushi. Il n'a pas de vrai nom. Là. Il est tout petit. Il fait à peu près 3 pieds 2. Son idole, c'était Ampou, le guitariste de Nightwish. Il voulait viser ses sommets. Non, il est tout petit. Puis il a fait des duos avec d'autres groupes. Puis ça lui a monté peut-être un petit peu à la tête. Il a décidé de partir une carrière solo. D'ailleurs, on va en entendre plus tard dans l'émission. Et il a été remplacé par un nouveau chanteur qui fait tant qu'à moi très bien la job. Puis de ce que j'ai lu, le groupe, il était content d'avoir ce nouveau chanteur-là parce qu'il dit on va retrouver un peu pourquoi qu'on aimait faire de la musique. C'est que je pense que il y en a un qui aspirait à ce qu'Eskimo Callboy, tu sais, joue avec Bruno Pelletier et compagnie, mais les autres ont dit non, on va rester party. Fait que, bref, c'est ça. Moi, c'est un petit band crush pour moi, mais c'est un band qui se prête beaucoup au boy crush. Puis Olivier va nous parler de son boy crush.
Ouais, j'ai un solide boy crush. Puis au mois de février, j'ai encore été...
à Saint-Valentin.
Juste avant la Saint-Valentin, j'ai eu un beau cadeau de mon boy crush. Je parle évidemment du greatest of all time, le GOAT, Tom Brady. Le corps arrière qui a gagné son 1, 2, 3, 4, 7e Super Bowl au mois de février, cette fois-ci avec les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, une équipe qui est sans Tom et finit, on jouait pour 500 la saison passée, ajoute le GOAT à l'équation et voilà, Super Bowl pour les Buccaneers de Tampa Bay. L'équipe n'a pratiquement pas changé à part Tom Brady. Ils ont ajouté aussi un running back. Mais
moi, j'ai toujours pensé que t'étais un fan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et non, t'es vraiment un fan de Tom Brady.
Ben, c'est curieux que tu le dis. Moi aussi, je pensais être un fan des Patriots, mais on dirait que quand Tom a quitté, il fallait comme choisir son camp un peu. Puis les Patriots, malheureusement, ont pas très bien négocié le départ de Tom. Il n'y avait pas vraiment de relève. Puis il pensait qu'il allait être capable de s'en sortir sans corps arrière, mais... Faut croire que M. Brady en faisait un peu plus pour cette équipe-là que ce qu'il pensait. Puis les Buccaneers, écoute, étaient une équipe le fun à suivre. Il y avait tout. Il y avait l'attaque, la défense. Incroyable.
Est-ce que t'as acheté ton linge des Patriots? Parce que là, je vois que t'as une cagoule des Buccaneers sur le dos.
Je l'ai pas acheté. Je l'ai temporairement remisé.
OK.
Ouais, non, c'est un petit... Un petit problème que j'écoute beaucoup le football. Je trouve que c'est une ligue qui est le fun à suivre. T'sais, comme c'est agréable de suivre les 32 équipes. T'sais, ici, on dit souvent qu'on écoute le Canadien, mais la plupart des gens ils savent pas qui joue quatrième centre pour les Golden Knights de Vegas. Puis il n'y a pas vraiment... c'est dur à suivre tout le monde ensemble, toutes les équipes. Contrairement à la NFL, c'est pas rare les émissions...
Fait que là, t'es capable de me nommer la ligne défensive des unités spéciales des Cards de l'Arizona.
Les Cards de l'Arizona. Ben, ils viennent d'acquérir J.J. Watt, justement, aujourd'hui.
Oh, bien esquivé.
Ben, ils pourraient dire n'importe quoi, j'en ai aucune idée.
Non, c'est vrai, t'iras voir ces nouvelles. Mais peut-être pas chaque joueur des unités spéciales, mais les gros noms, pas mal. Ouais, je suis capable de... On en reparlera lors d'un épisode subséquent. Là, malheureusement, c'est le moment de l'année où est-ce qu'on est le plus loin d'avoir du foot. Fait que on fait le deuil. Ouais. Mais c'est un moment idéal pour ma femme qui est bien contente.
Sinon, pour écouter un peu de musique?
Ouais, pour y aller en musique, je vous ai préparé un petit bloc death. Donc, plusieurs styles de death. J'aime bien ce style en général, puis... Bon, évidemment, il y a beaucoup de sous-classes dans le death. Puis bon, on va commencer tout de suite avec un de mes sous-classes préférés, le Melodic Death, particulièrement le son de Gothenburg, qui a quand même évolué. On n'a plus vraiment de band aujourd'hui qui fait du son de Gothenburg comme à l'époque, mais le Melodic Death est encore très présent. Et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de Soilwork, qui ont sorti un single fort intéressant l'année passée, Death Diviner.
Tant qu'à moi, ils n'ont jamais fait du Death de Gothenburg comme dans le temps. Même quand ils étaient dans ce temps-là.
Mais dans leur début. Ouais, dans leur début un peu quand même. Mais ouais, non, c'est vrai. Soilwork, personnellement, je les accusais d'être un peu mou dans le passé. C'était pas aussi punchy que d'autres bands. En plus, live, on se souvient, c'est un des premiers shows qu'on est allé voir ensemble au medley.
Ouais.
Ça fait quoi? Ça fait quasiment plus que 20 ans.
Les belles salles de spectacle pour des shows, mais pourries pour le son en général. La salle était mal faite. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de bands qui allaient là,
ouais.
Mais c'était pas commode comme salle. Ceux qui sont jamais au medley à l'époque, c'est un rectangle, puis au d'être sa longueur, c'était sa largeur. C'est... On parlera pas des colonnes qui bloquaient la vue à ben du monde aussi. Là.
Mais bon, on a des bons souvenirs là quand même. Là.
Ben oui. Ben, il y a un show qu'on est allé voir à l'époque, moi, Dee, puis un misanthrope avec qui on se tenait. Un vrai. J'ai jamais rencontré de misanthrope dans ma vie avant d'avoir vu ce gars-là, puis c'en est un vrai de vrai. Puis il a accepté de se faire kidnapper pour venir voir un show à Montréal. Sur mon talo medley, ça passerait de côté, ceux qui sont allés quand t'étais là à hauteur du stage. Là. Ouais, c'était une belle soirée à mépriser le band qu'il avait avec sa misanthrope.
Donc, Soilwork, mais je vous encourage à aller écouter le EP qui ont sorti janvier, en tout cas fin de l'année, début de cette année. Quand même surprenant, bien apprécié. Il y a une longue pièce qui est plus jazzée, mais allez voir ça, c'est intriguant. Et après Soilwork, on va écouter un petit band local qui a sorti un album que je me suis retrouvé à écouter plusieurs fois. Cataclysm, qui ont sorti l'album Unconquered. J'ai vraiment apprécié. J'écoutais pas vraiment ce qu'ils faisaient avant. Mais cet album-là, vraiment, je l'ai adoré. Là, j'ai écouté plusieurs fois, puis je continue de l'écouter. Avec la pièce Underneath the Scars. Petit band local, on va les encourager. Et c'était Amon Amarth, un extrait de leur dernier album Berserker, la pièce Crack the Sky. Donc, un autre style de death, hein, du plus Viking death, Amon Amarth death, je sais pas, ils ont quasiment leur propre style rendu où est-ce qu'ils sont.
Ben, je pense qu'ils ont fondé le Viking.
Ouais, carrément. Puis c'est ça, je pense que c'est un des bands que j'ai le plus appris à apprécier depuis notre dernier show des Lutins à radio. Ben, ça a commencé live, je les ai découverts live, puis c'est vraiment un band qui a une présence incroyable en direct. Puis c'est simple, c'est efficace ce qu'ils font. Ils font mieux que quiconque, ça sonne comme une tonne de briques. Et voilà, j'adore.
Musicalement, c'est plus simple que la scène, parce qu'il y a du feu, il y a des combats de chevaliers, il y a des dragons, des éclairs, tu sais. Il y a beaucoup de fluff là, mais ça fait que le show est vraiment le fun. Puis il faut embarquer la foule, embarque A1, le parterre qui rame ensemble pour aller conquérir le balcon. C'est des bons choix, mon amour, pour de vrai.
Ouais, puis c'est drôle. Puis une des premières fois que je les ai vus, je connaissais pas du tout leurs paroles. Puis je suis sorti de là avec un mal de gorge quand même. Fait que, qu'est-ce que je gueulais? Je le sais pas, mais c'est pas grave, rendu là.
Non. Tantôt, avant, il y avait dans ton blog, il y avait la tune de Cataclysm qui a joué. Moi, j'aime plus XDO, qui est dans le fond un side project de Cataclysm. Je suis plus trop sûr si tous les membres encore, qu'est-ce qui se passe, parce que je viens de découvrir qu'XDO ont sorti un single l'an passé. Donc, j'avais écouté les trois premiers albums. Le premier album d'XDO, tant qu'à moi, il est vraiment solide, solide. Il nous plonge à l'époque, Romain, sans l'heure. Après ça, ça s'amenuise, puis ça, je pense qu'Cataclysm ressort un peu plus, là, quand même. Là. Ils ont beaucoup plus de notoriété, on se prend pas de cachette, là.
Ouais, fait que c'est un petit bloc de death, puis Carl, toi, tu veux nous parler d'un film qui aborde du death.
Oui, eh bien, ça va être maintenant le temps d'une chronique.
C'est le moment de la chronique, les films bidons!
Le film Démon 2, ça fait suite au très célèbre Démon 1. D'ailleurs, il y a deux acteurs qui reviennent jouer dans la suite, mais ils font des nouveaux personnages. Fait que c'est pas super important, ces personnages-là. Là. Puisque c'est Démon 2, ben, on va suivre deux acteurs. C'est Anna et Clark Kent qu'on va vraiment suivre dans le film. Puis le gars s'appelle pas vraiment Clark Kent, mais il est presque pareil. Des lunettes, un petit complet. Il est fier d'être heureux d'exister. Dit Olivier, vous avez déjà vu Démon 2. Vous êtes sûrement capable de vous rappeler. Ben,
À l'époque VHS, ça fait longtemps, mais oui.
Fait que dans le fond, le film, en gros, Clark revient chez lui dans une grosse tour d'habitation avec une centaine de jobbers à l'intérieur. Là. Fait que dans ce jobber-là, il y a une bande de jeunes qui veulent faire le party d'un ascenseur. Il y a une prostituée qui se rend chez un client. Puis un gardien de sécurité que lui, il faisait un petit bomb dans le premier film. Fait que par la même occasion, le réalisateur lui décide de nous montrer un paquet de jobbers random pour faire des transitions des scènes avec Clark parce que juste le voir marcher, c'est pas intéressant. Puis il va s'arranger en plus, le réalisateur, qu'on s'attache un peu à tout ce beau monde-là qu'on va voir. Il y a entre autres une cougar alcoolique et un poodle. Il y a Jacques Teasdale de chez Meubles Denis Riel à Farnham qui mange avec sa petite famille. Il y a un kid qui a le talent de Nathan dans Ramdam, que lui, il est tout seul chez eux. Puis il y a Tony. Lui, c'est un prof de gym, super musclé puis full jogging. Puis c'est un super leader, comme son personnage dans Démon 1, sauf que c'est un pimp puis pas un prof de gym. Puis il y a aussi Sally, qui est quand même très important. C'est pas le personnage principal, mais elle, ça a boîte. C'est qu'elle, c'est sa fête. Elle a 16 ans, puis elle se trouve lettre. Ses amis, eux autres, s'en foutent, font le party dans l'ascenseur. Bref, tout ça pour dire qu'elle passe inaperçue, solide, dans son party de fête. Parce qu'il y a à peu près 6 fois dans le film qu'il y a un jobber qui dit « Hey, quelqu'un, c'est où est où, Sally? » C'est que, tu sais, elle est dans sa fête, dans son appart, puis le monde la perd de vue tout le temps. Le pire, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Jacob. Lui, c'est un doute qu'elle aille à mourir. Il est invité à venir à la fête. C'est que là, elle passe s'enfermer dans la chambre. Puis le gars qui a invité Jacob, lui, il se fait mettre à la porte. Soit dit en passant, c'est ce qui va lui sauver la vie. Fait qu'on va revenir à Clark. On apprend qu'il est en couple avec Anna, puis qu'il est enceinte, puis qu'elle tripe sur le yoga prénatal. Puis ça, c'est le genre de jeune couple branché et dynamique des années 80. Parce qu'ils ont réussi dans la vie. Ils vivent dans un super condo avec des fenêtres par balles. Soit dit en passant, je sais pas dans quel astide ghetto ils ont besoin d'être ça. Un building par balles, mais bon. Ils ont accès à un gym, un sauna, un paquet d'affaires. Puis ils ont même des enseignes néons dans leur condo, tu sais. C'est la grosse, grosse classe. Petit fait important à noter pour Clark. Je dis Clark Kent, tu sais, il est habillé pareil. Ben, il va perdre des morceaux de linge plus que le film va avancer. Là, il est rendu chez lui, il a plus son veston, déjà. C'est important dans l'évolution du personnage. Pendant le souper, parce que la journée continue, bien sûr, on va suivre un petit peu tous les jobbers du film, puis on se rend compte que tout le monde écoute un film reportage cheap, ces événements du premier film. Ça fait que ça, c'est intéressant, ce petit twist-là. Ah, on retourne dans la ville du premier. Puis presque tout le monde écoute ça. Même Sally, là, c'est sa fête, mais elle est enfermée dans sa chambre, elle écoute ça tout seul. Bref, tout le monde écoute ça sauf Clark puis Anna. Eux autres, ils mangent des légumes, puis Clark, il triche en étudiant son examen de physique quantique. Fait que, tu sais, Clark n'est pas super vaillant. On voit vraiment qu'il triche, il n'est pas fin. Fait que finalement, pendant qu'on se crisse un peu plus de ce qui se passe avec Clark et Anna, le réalisateur, il se regaroche sur le film reportage, puis finalement, on rentre dans ce film-là. Fait que là, on tombe dans un deuxième film, puis c'est plus filmé caméra, on veut dire télévision. C'est vraiment, on est dedans, puis on suit quatre jeunes rebelles qui n'ont pas de nom. Puis eux autres sont dans une cité interdite. Puis ça fait longtemps qu'elle a été condamnée à cause de l'infestation de démons qu'il y a eu dans le premier. Puis ils sont là pour trouver des trésors, des griffes, des démons, des dents. Ils trouvent le moyen de ramener des démons en vie, ils se font tout tuer. Puis ensuite, il y a le démon qui fixe la caméra. C'est que le démon, il sort de la télé puis il bouffe Sally. En même temps, là, dans son party de fête, tout le monde s'occupe d'amener le gâteau. Ils sont à peu près 12 autour du gâteau, à allumer le feu, les chandelles. Puis là, il y en a un qui allume. Chris, et où Sally? C'est que là, finalement, cette dernière arrive puis elle file pas. Elle se transforme en démon, puis il n'y a aucun chummy qui sort vivant de la petite fête à Sally. Sally, elle les massacre toutes, puis après ça, elle reste dans le milieu de la pièce, elle gueule, puis elle pisse du sang partout. C'est que pendant qu'elle pisse son sang partout, que la musique joue dans le tapis, assez pour que Anna dise à Clark, « Oh, ils ont l'air de bien s'amuser, je mangerai bien du gâteau! » Clark, lui, il s'en va donc sur Sally pour quitter un petit morceau de gâteau. Il prend l'ascenseur, on note qu'ils ne sont pas sur le même niveau, la musique joue dans le tapis. Le building, les fenêtres sont blindées. Ça fait qu'on déduit que tout doit être quand même bien sonorisé, mais c'est la boum. Mais pendant qu'il est dans l'ascenseur, le sang, lui, que Sally pisse partout, c'est acide. Ça fait que ça passe au travers tout. Ça coupe l'électricité, les lignes téléphoniques. D'ailleurs, même le garde de sécurité le mentionne au téléphone avant que ça coupe. Plus personne peut entrer ou sortir de l'édifice. Nous sommes prisonniers. Ça fait constat, ça va aller mal. Heureusement qu'il y en a un qui s'était fait sacrer dehors pour attendre Jacob. D'ailleurs, Jacob s'en vient, il chiffre en quatre. Le sang, en plus d'être acide, ben ça fait que si tu y touches, t'es contaminé. Fait que là, Clark est pris dans l'ascenseur avec la prostituée pendant que tous les chummies du party qui se changent en démons défoncent la porte et partent semer la terreur dans le building. Ben notre brave Clark, là, dans l'ascenseur, là, au diable la cravate et les lunettes hein, depuis un bout, puis là, il a détaché sa chemise pour forcer les portes de l'ascenseur parce qu'il va aller sauver sa femme. Fait que, après ça, pendant qu'il essaie d'ouvrir les portes, le réalisateur, on retourne faire un tour de figurant. C'est que le Poodle, lui, de la Cougar, ben il se change en démon. Puis c'est un des plus mauvais jeux d'acteurs canins que j'ai pu voir dans ma vie. Là. Le chien, il regarde la caméra tout le temps. Ben son dresseur, là, il est vraiment pas bon. Puis finalement, il va manger la Cougar qui essaie de se cacher des rideaux. Le petit Nathan, lui, qui joue mal, ben il est sorti chez lui puis il erre d'un couloir de ventilation en se cachant des démons. Mais il réussit à se faire infecter aussi. Puis le gym de Tony est attaqué. Mais lui, Tony, c'est tellement un leader qu'il est déjà en train de former son armée avec des poids et des haltères pour défendre son gym. Quand on revient à Clark, il a essayé d'arrêter d'ouvrir les portes, il escalade les câbles de l'ascenseur, bravo le grand, il reste juste 33 étages à monter. Puis finalement, la prostituée qui est avec lui, parce qu'elle monte aussi, elle se transforme en démon, puis là, il y a une poursuite d'un câble, c'est pourri, il défonce, il kick la tronche, puis elle va s'effouer dans l'ascenseur. Fait que là, pendant ce temps-là, lui, il s'en fait pour Anna, le téléspectateur aussi s'en fait, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec. Elle tourne en rond, elle attend son gâteau, elle a faim. Puis là, ça cogne à la porte. Le petit Nathan, « Maman, madame, laissez-moi rentrer, j'ai peur, je suis tout seul. » Mais c'était une ruse, le démon prenait la voix du petit gars, puis là, il rentre dans l'appart, puis il sert à rien. Sérieusement, là, le démon, il fait juste des « rah, rah », puis il tourne autour de la table. Là, c'est le néant total. Clark, lui, Clark, lui, continue d'escalader, puis il a arraché ses manches de chemise pour se les attacher autour des mains. Pendant qu'il montait, je sais pas comment il a fait, là, mais c'est Clark. Hein? T'as finalement, il sort de la cage de l'ascenseur puis il fonce chez lui pour sauver Anna. Pendant qu'il s'en va sauver Anna, l'armée de Tony, elle, est rendue encore plus grosse puis ils ont investi le garage souterrain de l'immeuble. C'est que pour se protéger, ils ont bloqué tous les accès avec des chars puis ils ont crissé le feu. Ils sont d'un, quand même de parking souterrain, pas de ventilation. Hein? Ça fait qu'on va mettre le feu, bonne idée. C'est que Tony prend son dos et sa ceinture de balle puis il fait un speech de leader patriotique pour booster les troupes. La petite famille de Jacques Teasdale est là, mais sa femme se transforme en démon. C'est que Tony dit à Jacques et à leur petite fille de reculer, puis il abat la bonne femme avec deux shots de 12 à bout portant devant la petite famille. Mais bon, finalement, les démons y envahissent le garage sans trou, puis c'est la fin de Tony qui se fait arracher les burnes. On revient à Anna, qui est toujours prise avec le démon le plus inutile de l'histoire des films de démons. Finalement, il sent tellement rien qu'il y a un genre de popette qui sort du ventre tel un alien. Une vraie petite marionnette visqueuse à souhait avec une voix crissement agressante. C'est qu'Anna, il faut qu'elle se défende. Elle n'a pas grande arme. Elle a une serviette, un lit placard, des ciseaux et une bouteille de peroxyde. Mais heureusement, c'est Clark qui arrive avec son parapluie qui va être le sauveur parce qu'il va transformer le petit démon en kebab. C'est que finalement, Clark saisit son stock d'alpinisme. Enfin, on sait qu'il fait de l'alpinisme. Puis il décide qu'ils vont fuir par les toits. Mais avant, il passe par chez Sally parce qu'Anna, elle veut enfin son morceau de gâteau. T'sais, elle lâche pas le plan, elle. C'est que revirement de situation, il y a deux jobbers qui ont survécu, puis bon, on va fuir tous les quatre. Hein. Il y a la place pour deux, il y a la place pour quatre. Mais là, en montant les marches, il y en a un qui se transforme en démon. Il se soigne en bas, mais là, il y a tous les démons, dont Sally en bas. C'est Clark, il pète les rivets de gaz, met le feu là-dedans, fait exploser la cage d'escalier. Mais Sally est toujours vivante. Lui, il est rendu sur le top avec Anna. L'autre fille avec eux autres se transforme en démon. Il la soigne en bas du building. Ils se mettent à descendre. Le démon les poursuit, Sally qui a réussi à les rejoindre. Un coup qu'elle touche à terre, Clark a ramassé un pipe avec une grosse rod là, qui traînait nowhere pour embrocher Sally. Ça fait que Anna, toutes ces émotions-là, puis pas avoir mangé son gâteau, là, l'ont fait fâcher. C'est qu'elle se met en travail. Là, les contractions sont sorties, elle va accoucher. C'est qu'il trouve un studio de télé où elle va faire sa job. Sally revient encore une fois, Clark la répète une dernière fois. Puis finalement, il s'en aille chercher un nouveau condo à la fin du film au soleil levant. Soit dit en passant, Jacob, il a réussi à arriver au building. On l'a vu quatre fois dans le film. Les trois fois qu'on l'a vu, il shiftait en quatrième. Puis la quatrième fois qu'on le voit, il pogne un accident en face du condo. C'est que c'était le film Démon 2. Si ça vous a plu, allez voir ce film. Ça vaut la peine.
Est-ce disponible en quelque part?
Bon, sûrement, là, sûrement plein de places. Là, sûrement qu'il existe en DVD aussi. Là, c'est des films de Romero, Dario Argento. D'ailleurs, même que la fille, me semble, de George Romero joue dedans. C'est elle qui fait la petite Ingrid que sa maman se fait défoncer à bout portant là, par Tony et son leadership.
Ouais, à revoir certainement.
Ouais. Ben, dans le fond, ça, moi, je vais essayer d'amener des fois des petites chroniques de films de main, des petits résumés de films bidons, parce que j'aime bien les films... bidon. C'est pas que c'est des mauvais films, c'est des films attachants. Puis sinon, je vais avoir des défis à vous lancer, puis je vais vous en lancer un tout de suite. Ça va être pour la prochaine émission. Donc, vous allez aller, les amis, vous avez les deux Netflix, je crois.
Ouais.
Moi, je vais vous parler des petits bonhommes, parce que j'aime beaucoup écouter des petits bonhommes. Ma fille, elle est en âge d'écouter des petits bonhommes à TV, ça, j'en écoute beaucoup avec elle. Et il y a plusieurs petits comics qui sont intéressants, dont les Teen Titans Go. Je suis un grand fan des Teen Titans Go.
J'avais tellement peur que tu nommes Coco Melon, là.
Oh, je sais c'est ça.
Attends, t'es heureux, puis tu le sais pas.
Ok, non. Mais je sais que j'avais déjà montré l'épisode à Adi du popotin, qu'il oblige Robin à danser, faire la danse du popotin. Il y a une suite!
Non.
Ouais, saison 5.
J'avais déjà vu aussi, tu me l'avais montré.
Toi aussi, ok. Ben, saison 5, dans le fond, l'épisode 14, vous allez pouvoir vous le noter, ça s'appelle À la recherche du popotin perdu. Donc,
je veux le voir tout de suite.
Écoutez-le, on en parlera la semaine prochaine, à la prochaine émission.
C'est bon.
On poursuit la musique?
Oui. Ouais,
je vous ai mis un petit bloc trash.
Wow.
Okay. Je m'éterniserai pas sur le sujet. J'ai décidé d'y aller avec des bandes de vieux de la vieille. On va entendre une toune d'Exodus tirée de l'album The Tempo of the Dam, la pièce Star Spangled Banner, avec un chanteur que je déteste.
Chanteur.
Ouais, c'est ça. Merveilleux. Je déteste ce chanteur-là et j'adore cet album-là. J'aime vraiment cet album-là. Puis sinon, Mr. Bungle, qui était une grosse surprise pour moi cette année. En fait, je savais même pas que Mr. Bungle avait fait du thrash metal à leur début. Ils font tellement n'importe quoi que je sais pas. Je me suis dit, bah, je vais écouter ça à botch, on m'a conseillé ça. Puis finalement, 5 minutes après, j'avais une frock de cuir, une coupe longueuil, puis je faisais du air guitare dans le salon. J'ai trouvé l'album super bon. C'est du super bon thrash old school, avec des membres d'Anthrax, Dave Lombardo qui était dans Slayer, etc. Fait que j'ai choisi la tune Raping Your Mind, puis l'album c'est The Raging Wrath of the Easter Bunny démo, sorti en 2020. On vient d'entendre la pièce Omega Wave, tirée de l'album du même nom, de Forbidden, un band trash qui sort un album par décennie. Fait que j'imagine qu'ils vont en sortir un cette décennie-ci.
2030.
Ils ont-tu un timing spécial, mettons les éclipses du soleil ou quelque chose comme ça?
Excellente question. Faudrait que je regarde. Vu que c'est une fois par décennie, je sais pas, c'est peut-être plus un alignement de Saturne avec Mars, puis un pentagramme quelque part dans le nord. Là.
Le pentagramme fait que. Tu sais, on se souvient qu'en Italie, les vidanges, il y a des grèves de vidanges là-bas, puis les vidanges ramassent dans les rues. Quand ça donne que ça fait un pentagramme, il y a des rues faites pour ça là-bas en Italie, c'est là qu'ils vont sortir leur album.
c'est quoi le gros band là, qui est essoufflé à écouter?
Ah, d'Italie, j'allais sous la Flash God Apocalypse.
Ouais.
Flash God Apocalypse, ouais. C'est là-dessus qu'il se base. Quand les vidanges sont réunis, il y a une toune de Flash God qui sort.
Premier album de Flash God est vraiment super, super bon. Là. Mais c'est vrai, tu sais, t'écoutes l'album, puis c'est vrai, ton rythme cardiaque a augmenté, t'es un petit peu essoufflé. Là. Des fois, besoin d'une petite douche.
D'ailleurs, lors d'un prochain épisode, c'est sûr que je vais vous faire écouter leur dernière pièce, Blue. Blue Labadie. Ils ont fait un remake assez savoureux.
Ah ouais, t'es sérieux? Bon. Un remake? Ah ouais, le Blue Labadie.
Blue Labadie. C'est quelque chose.
J'ai peur.
On m'a pressé de se faire une émission, donner juste un concept de reprise. On faisait ça des fois, des émissions spéciales quand on faisait la radio, moi et le Lutin D à l'époque.
Oui.
Des spéciales, de parler de tisane, entre autres.
Oui.
Plein de contenu, restez abonnés.
Non, mais blague à part, c'est qu'à chaque année, il fallait qu'on renouvelle, dans le fond, l'émission où ce qu'on était. Puis, tu sais, quand ça fait 8 ans que tu fais ça, à un donné, la renouveler, on s'entend. C'est qu'on avait déconné, mais on a dit, on va faire une émission, ça va être du métal comme d'habitude, mais on va parler que de tisane et de thé. Puis, dit à l'époque travaillait un commerce qui était expert dans ce genre de produits-là. Et on a fait une émission, 2 heures de temps, de parler de thé et tisane avec du métal qui bûche au travers de ça. C'était...
C'était de toute beauté.
Moi, je vais y aller avec des groupes en Allemagne. Je vais rester en Allemagne. Ça fait que je vais avoir eu 6 chansons allemandes ce soir. Je vous ai parlé du chanteur d'Eskimo Callboy, Sushi, qui n'est plus dans Eskimo aujourd'hui. Le dernier temps, il était encore à Eskimo en 2016, il était encore dans le groupe et il a fait une collaboration avec Caliban, que c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup, que je suis depuis pas leur tout début malheureusement, mais l'album The Opposite From Within, 2004-2003, je suis plus sûr, ça fait quand même longtemps. C'est un de mes bands préférés. Puis ils ont fait encore de solides albums et l'album, leur dernier album, Element, qui est paru en 2016, c'est peut-être l'album qui est... Il y a des bouts très mielleux dedans, mais les bouts violents sont, je pense, les bouts les plus violents que Caliban ont fait. Ils ont eu tout le chanteur de Dire Art is Murder sur une de leurs chansons qui vient. Ils ont quelques chanteurs invités. C'est vraiment un excellent album, Element. Puis la chanson Ich Blut ur dich, justement, Sushi est venu chanter avec le beau Andy Dorner, là, quand on parle Boys Crush. Boys Crush de Caliban. Puis finalement, Sushi a tout fait un petit projet solo qui s'appelle Ghost Kid, qui est paru l'an passé en 2020 avec l'album Supernova ou Ghost Kid, je suis plus sûr. C'est pas bon. C'est pas le fun à écouter tant que ça. Il y a une toune qui est intéressante à cause qu'elle a un chanteur invité. Je vous dirai pas tout de suite qui. Ça va être le troisième groupe qui va enchaîner. C'est que Ghost Kid de Sushi et son projet solo sans intérêt, juste avant Caliban. C'était Evan Shulburn avec la pièce Stateless de l'album Of Truth and Sacrifice paru en 2020. Alors, c'était lui le chanteur invité avec Ghost Kid. Ça doit être son neveu, je veux dire, quelque part, pour aller l'encourager. Là, OK, il va aller chanter avec toi. Là, mais bon. Tandis qu'Evan Shulburn, un groupe que j'aime beaucoup, j'aimerais les voir en show. J'ai pas eu connaissance qu'ils sont déjà venus en Amérique.
Moi non plus.
Un des groupes que j'ai vu en DVD qui font le plus embarquer la foule. Même chez nous, Circle Pit dans le salon, écoutant Evan Shulburn, le chanteur Marcus Bischoff, vraiment un excellent chanteur live. Un groupe, ouais, je suis déçu de ne pas les avoir vus.
Un petit duo Caliban Evan Shulburn, ça serait assez douloureux.
Ouais. Ils ont fait quelques split albums ensemble, ces deux groupes-là. Et ils se sont partagés Sushi.
La scène allemande est vibrante.
Ouais, ben il y a des scènes métal qui se portent très bien. On en parlait au début là, l'Allemagne continue de très très bien se porter. Tu sais, l'Autriche en a perdu beaucoup, je crois. Dans le début des années 2000, il y avait quand même plusieurs groupes qui arrivaient d'Autriche, des Arthas, des Dossorow et un paquet d'autres bands, Lord of Decadence là, qui m'échappe. Mais il semble qu'il se passe plus rien en Autriche de ce temps-ci.
Ouais, alors ben on va finir ce tout premier podcast. Fait que si vous êtes sur le point d'aller vous coucher, ben c'est super, on va avoir un petit bloc acoustique pour vous. Puis dans le fond, la première pièce, ben bon, Carl me parlait au début, j'aime quand même un peu, pas mal, Metallica. Et un des seuls spectacles que j'ai vu pendant le confinement, il y a plusieurs groupes qui ont fait des spectacles virtuels. On parlera pas de celui de Lacuna Coil récemment. si vous voulez en savoir plus, allez chercher sur Google, ça vaut à peine. Mais non, celui de Metallica, c'est un show bénéfice pour leur fondation All Within My Hands. Puis c'est un show qui disait acoustique, mais finalement, il virait non acoustique après en deuxième partie. Mais il y a, évidemment, Metallica, ils ont le budget, c'était vraiment. Ils ont vraiment très bien fait ça. Le band était entouré d'un mur d'écran, littéralement. Puis si t'avais un billet un peu premium, tu pouvais être affiché dans les parmi ceux qui étaient dans les caméras qui entouraient le band. Donc c'était quand même le fun. Le band interagissait avec le public, puis le son était très bon. D'ailleurs, la pièce que je fais jouer, c'est le single qu'ils ont enregistré chacun de leurs bars pendant le confinement, Black End. Mais elle sonnait beaucoup mieux live. Mais bon, quand même pas mal dans ce cas-ci. Mm-hmm. Donc Black End acoustique. Suivra ensuite un autre band qui a quand même fait deux albums acoustiques, un band trash que j'aime beaucoup, puis je pense tous les lutins aussi, Mokoma.
Mm-hmm.
Oh oui.
Ça sonne non acoustique, ça sonne comme une tonne de briques. Acoustique, ça sonne très bien aussi. Ça, c'est leur pièce, le pardonnez ma prononciation, Sidan Juret.
Sudan.
Alors, c'est-tu pas pire, Lutinka?
Sudan. Sudan. Sudan Yuret.
Sudan Yuret. Voilà. C'est Lutinka est notre expert prononciateur finlandais.
Ben, dans les faits, quand je suis allé en Finlande, j'avais moins misère à me faire comprendre en prononçant leurs mots qu'en anglais.
C'est bon signe. Et ben, on va finir le podcast avec un band. Bon, pas métal, presque métal, mais qui ont fait leur marque avec un album acoustique quand même, Nirvana, un grand classique, l'album Unplugged in New York, que j'ai revu récemment le spectacle, il est tombé sur une des plateformes numériques, puis je me suis dit, je vais écouter 2-3 tunes pour le fun, mais finalement, j'ai tout écouté, un super bon show avec Kurt Cobain, et donc ce sera la pièce d'homme, ouais. Mm. Sacré Kurt.
Ben, ça a été une bonne émission. Ça a été le fun. De recommencer ça 10 ans après. Nous retrouver comme ça à lutiner autour du métal. On a déjà hâte à la prochaine. On espère que vous aussi, ceux qui nous écoutez, qui avez toffé jusque-là.
On vous invite à nous suivre sur Facebook et puis Instagram pour être au courant de quand que les nouvelles émissions vont tomber.
Est-ce que ça s'écrit tout d'un mot, les lutins de l'enfer?
Sur Facebook, c'est les lutins de l'enfer avec des espaces entre les mots. Et sur Instagram, ben, y a des points entre les mots. Mais si tu vas sur notre Facebook, il est lié avec Instagram. Tu vas tout trouver, c'est magique.
Bon, parle-moi de ça.
Il y a des chances que ça soit tout linké aussi dans la description de l'épisode, donc aucune chance de nous manquer, aucune excuse. Suivez les lutins.
Et qu'on se revoit bientôt.
Yes, sur ce, les lutins, santé!
Cheers!
Cool!